France Info.
Corse surtout, les éclaircies seront de plus en plus belles sur le littoral aquitain et plus on ira vers le nord malheureusement et plus les nuages resteront encore assez présents avec un peu de pluie près des côtes, de la bruine sur Paris plutôt en fin de journée mais le ciel restera un peu bâché sur Paris, les températures sont en hausse, je vous en parle tout à l'heure.
Christine Peña, on se retrouve dans une dizaine de minutes après le journal, vous écoutez France Info, il est 5h. Après la mort du militant identitaire Quentin Derenck à Lyon, 7 hommes ont été mis en examen hier soir, dont 6 placés en détention provisoire, notamment un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Toujours 5 départements en vigilance rouge de Météo France ce matin pour les crues dans l'ouest de la France. Exemple dans le journal près d'Angers. Et c'est aujourd'hui que le gouvernement organise une réunion avec les assureurs pour faciliter l'indemnisation des milliers de salariés. Un choc pour la monarchie britannique. L'ex-prince Andrew, frère du roi Charles III, a donc été interpellé hier, entendu en garde à vue plusieurs heures dans une enquête liée à l'affaire Epstein. Et Quentin Fillon-Maillet peut devenir aujourd'hui le Français le plus titré de toute l'histoire olympique aux Jeux de Milan-Cortina, avec au programme la mass start du biathlon. Ils ont passé la nuit en prison, les 6 des 7 hommes mis en examen hier soir, une semaine après... le passage à tabac du militant identitaire Quentin Derenck. Ils ont été placés en détention provisoire et un dernier a lui été placé sous contrôle judiciaire. Bonjour Pierre de Cossette.
Bonjour.
Parmi ceux qui ont dormi derrière les barreaux cette nuit, un assistant parlementaire, Jacques-Élie Favreau, collaborateur du député La France Insoumise, Raphaël Arnaud. Il n'est pas poursuivi pour homicide volontaire mais pour complicité.
Oui, complicité de meurtre par instigation. Autrement dit, l'assistant parlementaire n'est pas poursuivi pour avoir donné des coups qui ont provoqué la mort de Quentin Derenck, qu'il s'en est d'ailleurs toujours défendu. Mais aux yeux des juges d'instruction, Jacques-Élie Favreau a pu inciter certains de ses camarades à frapper à mort le militant nationaliste, voire leur donner l'instruction de le faire.
Et les 6 autres suspects sont donc mis en examen, eux, pour homicide volontaire. On en sait d'ailleurs un peu plus sur leur profil, notamment l'un d'eux qui était déjà connu de la justice.
Oui, ils ont entre 20 et 26 ans, ils sont étudiants, employés dans le privé ou au chômage. En garde à vue, 2 d'entre eux ont gardé le silence, 3 autres ont reconnu être proches de la mouvance d'ultra-gauche. Et l'on découvre que l'un de ces mis en examen, âgé de 24 ans, est déjà poursuivi par la justice pour une agression à caractère antisémite dans le métro parisien il y a 2 ans, soupçonné avec 8 autres personnes d'avoir molesté un adolescent de 15 ans qu'il soupçonnait d'appartenir à la Ligue de Défense Juive. Un garçon qui avait raconté avoir été traité de sioniste et avoir dû crier « Vive la Palestine » par ce groupe à proximité d'une conférence de l'insoumise Rima Hassan. Les enquêteurs avaient retrouvé une vidéo sur un compte Instagram associé au mouvement antifasciste La Jeune Garde, ce mouvement auquel sont liés plusieurs des suspects dans la mort la semaine dernière de Quentin Derenck.
Pierre de Cossette du service police-justice de France Info et des inquiétudes à Lyon avant la marche en hommage à Quentin Derenck que souhaitent organiser plusieurs collectifs d'extrême droite demain. Le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet, réclame à la préfecture l'interdiction de ce rassemblement en raison de la présence redoutée de dizaines voire de centaines de militants d'ultra-droite ou de néo-nazis venus de France ou d'Europe, alors qu'en face des groupes antifascistes promettent aussi de se mobiliser. Exemple de cette atmosphère tendue dans le quartier de la Guillotière à Lyon, qui se trouve sur le trajet annoncé pour cette marche avec Simon Le Baron.
Des boutiques africaines ou maghrébines, des restaurants, des magasins solidaires, un quartier d'immigration en voie de gentrification, où Lucie est travailleuse sociale.
Moi, je suis allée prévenir des gens qui sont racisés en leur disant « Évitez d'être là, c'est possible qu'il y ait des gens d'extrême droite qui viennent et eux, ils vont vouloir en découdre. »
Dans sa boucherie à Lalle, Bilal a reçu ce tract distribué partout dans les rues alentours.
« Faites attention à vous, prenez les dispositions nécessaires pour votre sécurité et pour celle des personnes vulnérables autour de vous. »
Et pourtant, il assure qu'il n'est pas inquiet.
« Moi, je viens travailler. S'ils veulent venir nous massacrer, on ira porter plainte et demander des dommages et intérêts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on ferme demain, c'est eux qui ont gagné.
Rester ouvert pour résister ou fermer pour se protéger, dilemme pour les commerçants du quartier. Demain, Blandine est censée tenir seule l'épicerie.
Mais je me dis que s'ils passent par là, je fermerai. Ça n'a pas un grand intérêt de résistance, de rester ouvert pour rester ouvert à un moment où, en fait, il y aura juste du danger.
Sur le mur d'en face, une affiche antifa. Un homme cagoulé, cocktail molotov à la main. Des groupes d'extrême gauche appellent à ne pas laisser la rue à l'extrême droite. Certains habitants y voient un risque d'affrontement. Émilie trouverait leur présence plutôt rassurante.
Je ne serais peut-être pas là avec ma batte de baseball pour essayer de me défendre des gens qui vont de toute façon être violents.
Donc ça peut nous rassurer un petit peu en me disant, eh ben on n'est pas tout seul non plus.
Et tous pensent que le danger sera bien présent, même si le rassemblement est interdit.
Simon Le Baron du service de France Info. Et 5 départements sont toujours en vigilance rouge pour risque de crue ce matin. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne. 17 autres départements en vigilance orange pour les crues, les avalanches ou les vents violents. Selon un bilan diffusé hier soir par Matignon, 1750 personnes ont été mises à l'abri depuis le début des intempéries. Exemple pour France Info, près d'Angers. Dans les zones enclavées ou difficiles d'accès, la mairie des Ponts-de-Cé organise des tournées pour recenser les besoins des habitants qui refusent de partir et aussi pour appeler à la patience puisque la décrue prendra de toute façon beaucoup de temps quand elle arrivera. Sur place, l'envoyé spécial de France Info, Faustine Calmel.
Repérables à leurs bottes et gilets jaunes, ils sont 4 élus et agents à marcher sur la route fermée à la circulation automobile.
Oui, là-bas.
Là-bas, c'est pas étanche.
Une bande de bitume par endroit effondrée dans l'eau. D'un côté la Loire, de l'autre le Louette, les deux très hauts. Mais ce couple qui vit ici préfère rester.
Est-ce qu'il y a des besoins particuliers qu'on soit capable de remonter
terre, hein. Les gens sont désemparés, là ils sont partis. Hein, c'est
sacré trou là qui nous fait chier.
Vous êtes des habitués du secteur.
Oui, on est habitués, c'est pas pour ça qu'on est contents.
À côté, une famille a décidé de partir aujourd'hui. Car si les habitants sont effectivement habitués à voir l'eau monter. Ce qui déstabilise cette fois, c'est la durée de la crue, explique Robert Desœuvres, adjoint à la transition écologique en charge du plan de sauvegarde.
On a eu plusieurs événements dans les années passées, mais c'était sur une quinzaine de jours. Là, vu la côte de la Loire, on peut imaginer une période assez longue avant d'avoir une décrue totale.
Dans certains secteurs entièrement entourés d'eau, cela va poser problème.
Au moment du début des inondations, certains prennent des précautions de nourriture, d'eau et autres. Mais la durée fait que les frigos se vident et s'il y a des problèmes de ravitaillement, on en subit directement les conséquences.
Certains élus de la métropole ont rappelé hier cette difficulté. On ne va pas se transformer en Uber Eats, a lâché le maire d'Angers.
Faustine Calmel, près d'Angers pour France Info. Et c'est aussi l'heure de la facture pour les assurances. Pour faciliter l'accès aux sinistrés, le groupe Covéa qui gère la MAF, MMA ou encore la GMF pose des préfabriqués sur les lieux des sinistres. Exemple pour France Info à Langon, dans le sud de la Gironde, avec Faouzi Trita.
Christine tremble quand elle s'assoit devant les deux gestionnaires sinistres.
Moi, ça m'a désespérée. On se dit, voilà, comment on fait pour s'en sortir ?
Elle reprend un peu ses esprits et elle raconte sa maison où elle vit avec sa mère et son fils a été inondée. Elle a trouvé un logement en catastrophe.
Pour moi, la maison est dévastée. Il y a un mètre de plus d'humidité au-dessus de là où l'eau s'est arrêtée, quoi.
Face à elle, Cécile, la gestionnaire, déclare le sinistre et lui fait un virement de 2000 euros pour payer son logement d'urgence.
Le plus important pour vous, c'était de venir faire la déclaration. Et puis, on va pouvoir, en effet, verser une avance pour voir venir un petit peu le temps que la décrue s'amorce, quoi. En fait, c'est ça.
Ce qui me rassure, c'est pour ma mère. Honnêtement, là, je sais qu'au moins, elle est à l'abri et... Je vous remercie beaucoup.
On reproche souvent aux assureurs de demander des tonnes de papiers et de rendre les démarches interminables, chose que Serge, gestionnaire sinistre, ne comprend pas.
Ce matin, un sociétaire qui est passé, il avait une facture de relogement de 1200 euros. Il nous a dit que son congélateur avait été endommagé. On a pu lui prendre aussi le contenu de son congélateur. Finalement, il est reparti avec un virement de 1500 euros.
Vu la situation, les assurances rappellent qu'un délai d'un mois est prévu pour déclarer le sinistre. Le mieux reste de contacter l'assureur dès maintenant pour mettre en place rapidement les premières mesures.
Faouzi Trita à Langon en Gironde pour France Info. Le rappeur Naps a été condamné à 7 ans de prison avec mandat de dépôt pour avoir violé une femme pendant son sommeil. C'était le 1er octobre 2021 dans une chambre d'hôtel parisienne. Ses avocats annoncent qu'ils vont faire appel. Des nouvelles chances de médailles pour les tricolores aujourd'hui au Jeux d'hiver de Milan Cortina dans le ski cross femme et le biathlon homme avec la mass start et notamment Quentin Fillon-Maillet qui peut rejoindre avec un 6e sacre olympique Martin Fourcade. Il peut aussi devenir aujourd'hui le seul Français le plus médaillé de l'histoire olympique. Fanny Lechevestrier.
Ainsi, quand on lui fait remarquer qu'il est désormais l'égal de Teddy Riner avec 5 médailles d'or comme le judoka, Quentin Fillon-Maillet, surpris, préfère en rire.
Bah écoutez, tant mieux. Hein. Ouais, même palmarès, mais pas le même gabarit, exactement. Hein.
La course au record, pas vraiment la quête du Jurassien, décrit sa maman présente à Anterselva depuis le début des Jeux.
Non, parce qu'on faisait du sport pour le plaisir, pour voilà.
Félicitations. Hélène, qui avait mis son fils sur les skis à 4 ans, juste pour qu'il se défoule, peine à réaliser.
C'est incroyable, hein, c'est fou.
C'est magique. 5 en or et 3 en argent sur 2 Olympiades.
C'est trop gros, hein ?
Ajoute Alain, l'oncle de Quentin.
Ah, déjà avec 5, on était surpris avant.
Mais si QFM n'est pas du genre à se retourner sur les records, son entraîneur Simon Fourcade sait bien qu'il voudra encore gagner aujourd'hui. Le biathlète, perfectionniste jusqu'à l'excès, se nourrit du travail bien fait.
On a le métronome et le bourreau de travail, Quentin, il s'arrête jamais. C'est une machine de guerre, ce type.
Et attention, la Mastart est la seule course olympique où il n'est pas encore monté sur le podium.
Fanny Lechevestrier est l'une des envoyées spéciales de France Info au jeu d'hiver de Milan, Cortina et le football, avec une nouvelle déception pour Lille, battue à domicile hier soir par l'Étoile Rouge de Belgrade, 1-0 en barrage aller de la Ligue Europa. Le match retour, c'est jeudi prochain. Et à 5h10, c'est l'heure de la météo, on retrouve Christine Peña. Christine, ça s'améliore, ça va être très progressif, hein, mais ça commence quand même à s'améliorer.
Oui, la masse d'air s'assèche petit à petit. Le mauvais temps là est parti en direction de l'Italie surtout. Alors sur l'est du pays, on a encore quelques averses sur le massif central aussi, avec un peu de neige sur les sommets. Nous avons pas mal de nuages au nord, avec un peu de bruine ce coup-ci vers la Manche, vers Paris. Et puis ce soleil qui arrive plutôt dans le sud. D'ailleurs, ce week-end, on retrouvera le découpage classique, hein, soleil au sud et nuages au nord. L'anticyclone des Açores, qui étaient aux abonnés absents jusqu'à présent, nous revient et il rejette le mauvais temps en direction des îles britanniques. C'est pour ça que sur la moitié nord, on restera avec pas mal de nuages et des températures en hausse, hein, ce week-end surtout. Aujourd'hui, on ira de 8 à Strasbourg, 11 du côté de Paris, Rouen, Lille, Reims, Abbeville, jusqu'à 17 à Montpellier, Toulon et Nice.
Christine Peña, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, juste avant, en 5h30, pour une carte météo complète.
Le vendredi à 9h, retrouvez les informés du matin sur France Info.
Renaud Dely, bonjour.
Bonjour Adrien.
Autour d'Adrien Beck et Renaud Dely, des experts débattent, analysent et décryptent l'actualité.
Est-ce que sur le plan de la communication, c'est efficace ou contre-productif ?
Et est-ce qu'après, le choix des mots est le bon ?
Les informés du matin avec Adrien Beck et Renaud Dely, tout à l'heure à 9h sur France Info.
Une actualité toujours marquée ce matin par les crues en France et les vigilances de Météo France. Exemple dans un instant en Loire-Atlantique et dans le Lot-et-Garonne.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Il est 5h12. La Loire-Atlantique a été placée en vigilance rouge pour les crues par Météo France, en plus des 4 autres départements de l'Ouest déjà en rouge. Le préfet demande aux communes concernées d'activer le plan communal de sauvegarde. Par propagation, une crue majeure est aussi attendue sur la Loire aval. C'est l'avertissement du dernier bulletin de Vigicru qui avait déjà déclenché la vigilance rouge pour la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. Marie Argouarche est directrice de cabinet du préfet de Loire-Atlantique.
Sur la Loire-Atlantique, nous sommes passés en vigilance rouge cet après-midi pour la Loire aval, avec notamment 6 communes qui sont plus particulièrement concernées par cette vigilance sur ce tronçon. Et donc, on suit la situation depuis plus d'une semaine maintenant avec l'ensemble des maires et avec les sapeurs-pompiers qui sont fortement mobilisés. Sur le département, nous avons actuellement 14 communes qui ont activé leur plan communal de sauvegarde. Et nous avons activé le centre opérationnel départemental pour suivre l'évolution de la situation en direct avec notamment les pompiers, les maires, les gendarmes également.
Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur ces 14 communes justement ? Combien d'habitants cela concerne et quels sont les risques principaux et surtout les consignes que vous donnez aux habitants concernés ?
Les 14 communes sont situées essentiellement sur ce tronçon qui est actuellement en rouge, la Loire aval, mais également sur 2 tronçons qui sont également concernés par le phénomène de crue, donc la Loire estuaire, c'était le cas à Saint-Cloud-sur-Loire. Et puis nous avons par ailleurs un tronçon qui va passer en vigilance orange, c'est la Vilaine aval. Donc ce sont sur ces 3 tronçons que se situent les communes en question. Et donc pour les communes qui sont les plus concernées, donc notamment sur le tronçon qui est en rouge, les maires ont depuis plusieurs jours maintenant fait un travail de porte à porte pour aller au contact des habitants qui sont dans les zones pour nous les plus à risque. en les invitant, lorsque cela est jugé nécessaire par les maires, à soit retrouver des solutions de relogement dans des familles. Donc on a à l'heure actuelle 30 maisons pour lesquelles des personnes ont trouvé des solutions de relogement en famille, soit les faire évacuer et leur proposer le cas échéant des solutions d'accueil collectif. La commune de Loire-Auxances, par exemple, a mis en place un gymnase qui est prêt à accueillir jusqu'à 200 personnes sur cette commune.
Marie Argouarche, la directrice de cabinet du préfet de Loire-Atlantique, elle répondait sur France Info à Julien Langlais. Il est 5h15, direction maintenant le Lot-et-Garonne, où la Garonne redescend depuis hier matin. Les habitants de Fourques, près de Marmande, en profitent pour nettoyer et pour trier ce qui a été touché par les eaux. Et la gestion des déchets s'annonce maintenant complexe. Sur place pour France Info, Caroline Félix.
Gilles, un habitant, a sorti une dizaine de planches de son garage pour les faire sécher.
Je mets ça là parce que ça enlève de l'humidité dedans. Mais ouais, c'est mort, ça. Tous ces trucs comme ça en aglo, c'est mort. Hein. Regardez, c'est tout fendu. Ça va partir à la poubelle. Hein.
Ici, chaque foyer a au moins un carton d'affaires ou un lave-linge qui a pris l'eau à jeter, sans compter les objets qui jonchent les pelouses charriées par la Garonne.
Il y a des bois, il y a de tout qui se balade. Des bouteilles de gaz, il y a une niche à chien là-bas. Il y a un fauteuil là de jardin, je sais pas, et on sait pas d'où il vient.
D'ailleurs, la ville de Fourques a organisé une collecte de déchets. Thierry est employé municipal.
Hier, on a ramassé une benne 19 tonnes sur le fond de la commune. Comme il y a eu beaucoup de vent, tout s'est accumulé là-bas au fond. Il va falloir y revenir encore, hein, parce qu'on a ramassé tout ce qu'on voyait, mais après dans les champs on ne peut pas trop y aller encore.
Thierry qui fait du porte-à-porte avec Jacques Biliri, le maire de Fourques, il demande aux habitants qui ne sont plus inondés de commencer à trier ce qu'ils comptent jeter, ce qui était abîmé par la crue.
Dans chaque foyer, on a 4 flux qui vont être préparés. L'électroménager, numérique, on aura un tri sur le mobilier, un tri sur le bois, et puis le tout venant.
Si la météo le permet, l'agglomération commencera à ramasser ses déchets lundi matin.
Caroline Félix à Fourques, près de Marmande pour France Info. Il est 5h16 au Royaume-Uni. L'ex-prince Andrew a finalement été relâché hier soir après plusieurs heures de garde à vue. Il avait été arrêté hier matin, soupçonné de manquement dans l'exercice de fonctions officielles. Une enquête liée aux derniers documents publiés en marge de l'affaire Epstein aux États-Unis. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de France Info à Londres. Andrew a été aperçu hier soir à la sortie du commissariat.
Oui, ce matin, à la une de la presse britannique, vous avez cette incroyable photo d'Andrew au moment où il quitte le commissariat, essayant de s'allonger sur la banquette arrière de la voiture pour échapper aux photographes, hébété visiblement sous le choc. Il rejoint son domicile de Sandringham, perquisitionné hier par les enquêteurs. Libéré sous caution après 12 heures d'interrogatoire, il peut être convoqué dans les prochaines semaines pour être entendu à nouveau avant de se voir signifier par le procureur une mise en examen ou non pour manquement dans l'exercice de fonctions officielles, une infraction très complexe qui peut mener le prince déchu derrière les barreaux, alors que 9 forces de police enquêtent en parallèle sur son implication dans plusieurs affaires de trafic d'êtres humains et d'agressions sexuelles sur mineurs.
Et les réactions sont évidemment très nombreuses, Gaëlle, à commencer par celle du président américain.
Oui, Donald Trump a jugé très triste hier l'arrestation du prince déchu, vraiment très triste et terrible pour la famille royale, a ajouté le président américain qui s'exprimait à bord de son avion en assurant que pour sa part, il avait été totalement blanchi dans l'affaire Epstein. Hier, dans un rare communiqué, le roi a affirmé que la justice devait suivre son cours tout en célébrant l'ouverture de la Fashion Week à Londres comme si de rien n'était. Le prince héritier William et son épouse Kate, eux, sont restés discrets, faisant simplement savoir qu'ils soutenaient la position du roi devant Buckingham. Palace, les Britanniques ont salué cette arrestation.
Si vous avez mal agi, vous en payez le prix, c'est tout. Peu importe qui vous êtes, quel que soit votre statut, la loi est la loi. Et oui, si vous faites de mauvaises choses, vous devez être puni pour cela.
Il est normal que la loi soit juste pour tous et chacun devrait avoir droit à un procès équitable et à un accès équitable à la justice. Et ce que l'on souhaite, c'est que le résultat apporte une forme de réconfort et de soutien à ceux qui ont subi un préjudice, quel qu'il soit.
Hier, la famille de Virginia Giuffre, qui accuse Andrew d'agression sexuelle alors qu'elle avait 17 ans et qui s'est suicidée l'an dernier, a affirmé sur la BBC avoir fêté l'arrestation d'Andrew. Nos cœurs brisés ont été apaisés par la nouvelle. Personne n'est au-dessus des lois. Pas même la royauté, a déclaré le frère de la victime.
Gaëlle Joly à Londres pour France Info. Dans un instant, la suite de la série de reportages de France Info à l'approche des municipales. On est ce matin à Besançon avec un gros plan sur les questions de sécurité. D'abord l'info en une minute.
France Info, 5h-6h.
Et l'essentiel de l'actualité à 5h19, c'est avec Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour.
Le premier titre, c'est mise en examen hier dans l'enquête sur la mort de Quentin Derange.
6 personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire. Quant à l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Ernault, il a été mis en examen et placé en détention provisoire pour complicité de meurtre par instigation. Après la mort dans une rixe du militant identitaire à Lyon la semaine dernière, en tout 5 personnes ont été incarcérées. Martine Vassal provoque colère et indignation lors d'un débat télévisé. La candidate de la droite et du centre à la mairie de Marseille a repris le triptyque pétainiste « Travail, famille, patrie, ce sont mes valeurs », affirme la candidate, même si, je cite, « elles sont passées de mode ». Et l'épisode de crue est encore loin d'être terminé selon le gouvernement. 5 départements de l'ouest de la France sont en vigilance rouge avec désormais la Loire-Atlantique qui rejoint le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Charente-Maritime. Sébastien Lecornu promet une indemnisation au plus vite pour les victimes. Des crues. En foot, Lille chute à domicile face à l'étoile rouge de Belgrade. 1-0. De quoi voir encore s'éloigner les huitièmes de finale de Ligue Europa. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour le match retour dans la capitale serbe.
France Info. C'est une nouvelle journée spéciale élection municipale sur France Info et aujourd'hui à Besançon avec une question qui revient au premier plan des débats locaux, les maires face aux questions de sécurité et question en particulier qui divise souvent les élus, faut-il armer la police municipale ? Dans cette ville de 120 000 habitants près de la frontière suisse, la police municipale n'a pas d'armes à feu, la maire écologiste n'en veut pas, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. Adèle Belroumri est allée sur place à Besançon pour France Info où ce débat divise les électeurs depuis des années.
Oui, c'est un vieux serpent de mer ici, reconnaissent les Bisontins. À Besançon, on compte une quarantaine de policiers municipaux équipés de tasers, de matraques ou de bombes lacrymogènes. Mais cela ne suffit plus. La quasi-totalité des agents demande des armes létales.
Ma position et celle de la police municipale de Besançon est la même qu'au niveau national du syndicat FOPM, c'est-à-dire l'armement par arme à feu des polices municipales.
Yvan Decruy, brigadier chef principal à Besançon et délégué force ouvrière police municipale.
Pour pouvoir se défendre, c'est la première des réponses. Et ensuite, dans le cas hypothétique d'un attentat ou d'une agression très violente, le premier réflexe de tout être humain lorsqu'il entend un tir d'arme à feu, c'est de baisser la tête. Même si on tire en l'air, s'il baisse la tête, pendant 5 secondes ou 10 secondes, il ne fait plus rien d'autre et donc on a sauvé des vies. Donc oui, c'est pour de la prévention, de la dissuasion.
Et dans cette ville où la délinquance progresse, le syndicat cite un fait récent, le braquage d'une manufacture de bijoux il y a 2 mois. Dans leur fuite, les malfaiteurs ont tiré sur la police nationale sans faire de blessés.
Les premiers arrivés ont été la police nationale, mais ça aurait très bien pu être un équipage de la police municipale. Les délinquants auraient pu tirer, les gens seraient retrouvés complètement démunis face à des armes à feu, alors que leur seule défense est un taser.
C'est pour toutes ces raisons que Guy, 70 ans, soutient le port d'armes à feu par la police municipale.
Pour moi, c'est une évidence que la police municipale, si elle veut faire correctement son travail pour la sécurité de l'ensemble de la population, qu'elle puisse, dans certaines conditions, être armée. Il y a des périodes où c'est plus risqué que d'autres. Par exemple, le soir, il y a quand même des limites. Il faut que la police soit armée, mais formée. Il ne faut pas qu'on ait les dérives d'ICE, hein, qui sachent apporter une réponse appropriée face à un problème. C'est surtout ça.
Mais les Bisontins que j'ai interrogés sont majoritairement contre cette idée.
Mais oui, moi je pense au contraire que savoir que dans notre ville, que ce soit des policiers ou n'importe qui, qu'il y ait plus d'armes, je trouve ça dangereux.
Il faut améliorer les choses, mais ça passe pas forcément par l'armement de la police municipale. Je pense que c'est bien de dissocier police nationale de police municipale. Chacun a son rôle.
Moi je pense pas qu'il faille l'armée, je pense qu'on a besoin de police de proximité, des gens qui connaissent la population, qui viennent à leur contact. Qui crée du lien.
À Besançon, 3 des 6 candidats à la mairie proposent d'armer la police municipale.
Adèle Belloumri à Besançon, où on aura des rendez-vous très réguliers tout au long de ce vendredi pour cette nouvelle journée spéciale municipale sur France Info. 5h23, l'heure du monde d'Élodie avec Élodie Suigo et son invité.
Bonjour Willy Nenze.
Bonjour Élodie.
Vous avez été repéré dans l'émission Graines de Star en 2000. Exactement. Avec le titre Que vous dire. Vous êtes ce chanteur qui a marqué toute une génération avec les tubes Le mur du son en 2003, L'orphelin en 2004 et Si tu n'existais pas, la reprise effectivement de Joe Dassin en 2005. La suite a été plus opaque pour le public et même si vous apparaissez moins sur nos écrans, en télé, en radio, vous n'avez jamais cessé de faire de la musique, Willy, de monter vos structures aussi pour conserver votre indépendance. Votre dernier single déjà vu est sorti d'ailleurs en 2025. Vous êtes au cœur et l'une des têtes d'affiche du grand concert
live événement R&B Legacy, un hommage aux icônes R&B des années 2000 organisé au Dôme de Paris. Ce sera le 20 mars prochain avec 30 autres artistes comme Yannick qui va d'ailleurs être maître de cérémonie. Il y aura Matt Houston, Marc-Antoine, Amine, Assia, je vais pas tous les citer, mais on sent qu'il y a une envie aussi de marquer une présence avec cette génération. Oui.
Tout à fait, je pense que c'est une bonne initiative parce que le R&B à l'époque tel qu'on l'avait connu dans les années 2000, je pense que le boulot n'a pas été fait complètement et correctement à un point aujourd'hui que de revenir sur cette espèce de nostalgie et de justement avoir cette opportunité de cristalliser cette époque. Donc se retrouver avec toute cette mouvance, cette vibe et les collègues de cette époque, c'est génial parce que c'est une deuxième chance aujourd'hui de venir parler de nous et de raconter notre histoire.
Est-ce que c'est pas une génération qui était pour le coup décomplexée de ce son hip-hop et surtout décomplexée d'aller puiser du côté des États-Unis ?
On n'avait pas honte de dire voilà, on veut faire comme tel artiste aujourd'hui.
Avec un sens de la scène aussi. Hein.
Oui, avec un sens de la scène. Et puis avant d'être artiste, on est des grands rêveurs aussi, il faut le savoir. C'est qu'on rêvait tout simplement comme des ados qui regardaient tel artiste et qui se disaient « Ah ouais, un jour, je veux devenir comme lui ». Ça n'engage que moi, mais ce qui me concerne, c'était ça. Moi, j'étais fan de Boyz II Men, c'est-à-dire que le côté a cappella, harmonie, tout ce qui était riche en termes de black soul américaine, c'était vraiment ma tasse de thé. Donc ouais, je peux que acquiescer et kiffer ce moment pleinement, quoi.
C'est vrai que vous me parliez de ce qui se passait à la maison. Vous êtes d'origine, enfin vos parents étaient d'origine laotienne.
Exactement.
C'est évidemment cette génération.
Ouais, réfugiés politiques, les Boat People et tout, etc. Donc
qui a vraiment vécu des moments très très durs, très très forts. Comment elle est arrivée cette musique à la maison alors ?
Mon père chantait. Je m'en rendais pas compte. J'ai eu un tilt vraiment plus tard. Lui, il chantait des musiques traditionnelles du Laos. Et en fait, au début, quand j'étais plus jeune, quand j'avais peut-être 6-7 ans ou même encore plus jeune, je me souvenais, par exemple, j'ai un flash là où je dormais sur les genoux de ma mère. Et puis devant, quand j'ouvrais mes yeux, je regardais mon père de dos en train de chanter. Et lui, il faisait ça dans des familles où il se réunissait pour gagner sa vie. Et en fait, c'était un truc que j'avais pas trop associé à la musique que je faisais. Et puis avec le temps, je me suis dit, mais en fait, quand me posait toujours cette question, est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui chantent ? Je disais non, mais en fait, oui, mon père chantait en fait. Et c'est ce truc-là, je pense, qui m'a nourri inconsciemment et qui m'a donné envie de prendre le flambeau à mon tour, quoi.
À quel âge vous avez découvert votre voix alors, Willy ?
À 14 ans. Je pense que c'était un moyen de séduction pour les filles à l'époque. C'était un petit peu le truc où on se cherchait avec les copains. On prenait le RERD et on faisait Lemay-Paris toute la journée. Et on chantait dans les trains, justement, du Boyz II Men a cappella. Parce que comme on n'avait pas les moyens d'avoir des instruments, on s'est dit, nos voix, ça allait être nos instruments. Et je pense que le RERD s'en souvient et que tous les passagers aussi, parce qu'on leur cassait la tête avec du Boyz II Men aller-retour. Mais bon, c'était très cool.
L'apogée, c'est le mur du son.
Ouais.
Ce titre, tout le monde le chante encore aujourd'hui.
Incroyable.
Après une ride, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, effectivement. Elle représente quoi cette chanson pour vous et elle est née comment cette chanson ?
Le mur du son, c'est un paradoxe parce que ça m'a permis de franchir un vrai cap. En deux, trois flashs, je chantais dans une salle de 50 personnes. Et trois jours après, c'était 40 000 personnes qui reprennent ton son à tue-tête. Et là, oui, franchement, ça fait quelque chose. Et là, tu te rends compte que ta vie, elle a changé. Parce que à l'époque, tu vois, il n'y avait pas les réseaux. Et quand tu sortais, le kiff, c'était d'aller dans n'importe quel endroit de France. Tu te rends compte que des gens, ils t'appelaient par ton prénom et tu te sentais partout chez toi à la fois. Donc, c'était un truc complètement fou.
Le R&B, est-ce que c'est pas un art de vivre, Willy Denze ? Une façon de regarder la vie.
Ouais, tout simplement.
Du bon côté.
Vous avez tout à fait raison. Justement, nous, on a un projet justement qui s'appelle aussi R&B. On l'écrit ART-NB. Donc, ça signifie l'art d'être. Donc, et l'art de vivre, l'art d'être soi-même. C'est un lifestyle, en vrai.
Merci beaucoup, Willy Denze, d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info.
Merci.
Je le rappelle, c'est le 20 mars prochain, ce concert R&B Legacy avec 30 artistes sur scène. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Écoutez du bon. Vas-y, monte le son. Ne fais pas d'illusions. Mets-toi en condition.
Le monde d'Elodie à retrouver sur franceinfo.fr. Tout de suite, la météo avant le journal à 5h30. La météo avec Christine Peña qui revient. Pour les gens qui ont les pieds dans l'eau, Christine, ça reste compliqué, mais quand même des bonnes nouvelles. Le vent d'ailleurs qui baisse d'un cran dans le sud.
Il baisse d'un cran, effectivement. On est sorti de vigilance orange pour ces vents violents sur les Pyrénées orientales et l'Aude. Nous avons toujours des rafales qui restent fortes, jusqu'à 100 km/h sur le littoral de la du Languedoc-Roussillon ce matin, vers le Var cet après-midi. En Basse-Vallée du Rhône, ce sont plutôt des rafales à 80 km/h. Voilà, on a un ciel qui se dégage quand même en Méditerranée. Sur la façade atlantique aussi, ça va s'éclaircir un peu, surtout cet après-midi, notamment sur le littoral aquitain. Mais on a toujours cet axe entre les Pyrénées et le nord-est, les Alpes, en passant par le Massif central, où ça reste très nuageux avec quelques averses encore. Les dernières, elles seront plutôt sur la façade est pour cet après-midi. Et puis en Manche, on a des perturbations qui circulent, mais sur les îles britanniques, et qui nous renvoient pas mal de nuages et encore un peu de pluie. Alors elles se cantonneront surtout cet après-midi vers la Manche. Ce soir, on pourrait avoir encore de la bruine du côté de Paris, avec un ciel qui restera chargé, des températures qui vont remonter peu à peu. On gagne de 1 à 3 degrés, 10 à Lyon, à Dijon également, 12 à Alençon, à Limoges, 13 du côté de Rennes et de La Rochelle, 14 à Bordeaux, jusqu'à 17 à Toulon et Nice.
Christine Peña, merci d'écouter France Info, il est 5h30.
France Info, Jean-Christophe Martin.
Après la mort du militant identitaire Quentin Derenque, roué de coups il y a une semaine à Lyon, 6 hommes soupçonnés de l'avoir frappé à mort ont été mis en examen hier soir pour homicide volontaire et un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud pour complicité. Parmi les suspects mis en examen pour homicide volontaire et également écroué figure un autre proche de Raphaël Arnaud qui travaillait lui dans l'équipe du député jusqu'à quelques jours avant les faits, selon son avocat. Christophe Vincent a pu assister au début des audiences de présentation au juge des libertés, notamment celle de Jacques-Élie Favreau.
Devant le juge des libertés et de la détention, l'assistant parlementaire de 24 ans est apparu fatigué par ses 48 heures de garde à vue et visiblement surpris par l'intérêt médiatique suscité à cette heure tardive. Juste avant, l'un des trois juges lui avait signifié sa mise en examen pour complicité de meurtre par instigation. En clair, dans la rixe, on lui prête un rôle de meneur, même si son avocat Bertrand Saint ne commente pas ce qui ressort de l'enquête.
Confirme qu'effectivement, M. Favreau n'a pas donné de coup direct susceptible d'avoir causé le décès de M. Derenque. Il a été mis en examen aussi pour des violences volontaires aggravées s'agissant des violences ou des coups qu'il a pu donner dans le cadre de cet attroupement sur d'autres personnes. Et il a été mis en examen pour des faits d'association de malfaiteurs. M. Favreau a donc été placé en détention provisoire. Le procureur avait sollicité son placement à l'isolement pour sa protection, puisque de nombreuses personnes sont inquiètes pour lui. Et finalement, il sera incarcéré sans ce régime spécial d'isolement. Je vous remercie.
Pour complicité de meurtre par instigation, Jacques-Élie Favreau encourt la même peine que pour un homicide, 30 ans de réclusion criminelle.
Christophe Vincent à Lyon pour France Info. 5 départements sont toujours en vigilance rouge pour risque de crue. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne. 17 autres départements en vigilance orange, soit pour les crues, soit pour les avalanches, soit pour les vents. La Loire, par exemple, reste encore très haute. Les villes au bord du fleuve en font les frais. À Saint-Luce-sur-Loire, un quartier était toujours complètement isolé. Hier, les routes inondées, la municipalité et les habitants utilisent les moyens du bord pour sortir de leur quartier. Sur place pour France Info, Sohel Jaouda.
Le pont qui mène au quartier Bellevue est sous l'eau. Les habitants utilisent donc un moyen de transport inhabituel.
Là, on est obligé de prendre la barque pour se rendre au village parce que ça passe plus. C'est folklore, mais c'est pas drôle.
Pas drôle pour Pascal, parce que l'eau bloque complètement la route sur près de 200 mètres. Elle monte à hauteur de cuisse. Simon, par exemple, a dû revoir ses plans.
On était parti en vacances dans les Pyrénées et au vu des informations, on est revenu en urgence hier.
En revanche, Janine, une autre habitante de Bellevue depuis 50 ans, garde sa bonne humeur.
Le maire, ce matin, est passé. Il m'a dit « Vous avez le sourire ?» J'ai dit « Si, je vais pleurer, ça va changer quelque chose, il vaut mieux avoir le sourire. Hein. »
Une bonne humeur qui est partagée dans tout le quartier.
C'est un village, tout le monde se connaît et tout le monde est solidaire.
À l'image des agents municipaux, ils tirent la barque eux-mêmes pour faire la navette aux habitants.
On garde le sourire quand même, nous agents municipaux, même quand il y a des problèmes d'inondation. Il faut amener un peu de gaieté parce que les gens qui habitent à Bellevue, c'est pas évident pour eux.
Et la mairie a mis à disposition de ses habitants des sacs de sable en cas d'inondation.
Sohel Jaouda d'ici Loire-Océan pour France Info. Le rappeur Naps a été condamné à 7 ans de prison avec mandat de dépôt pour avoir violé une femme pendant son sommeil le 1er octobre 2021 dans une chambre d'hôtel parisienne. Ses avocats annoncent qu'ils vont faire appel. Un choc pour la monarchie britannique. L'ex-prince Andrew, frère du roi Charles III, a été arrêté et placé en garde à vue hier matin pour une enquête sur un manquement dans l'exercice de fonctions officielles. Enquête liée à l'affaire Epstein et du jamais vu dans l'histoire moderne de la monarchie britannique. L'ex-prince est ressorti de sa garde à vue hier soir. Moins de 2 mois après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par l'armée américaine, une loi d'amnistie historique vient d'être approuvée à l'unanimité par les députés vénézuéliens. Elle va permettre la libération des prisonniers politiques. Loi promise fin janvier sous la pression américaine, mais qui exclut une partie des détenus politiques, notamment la chef de l'opposition et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, qui est toujours par ailleurs en exil. El Football, nouvelle déception pour Lille, battue à domicile hier soir par l'Étoile Rouge de Belgrade, 1-0 en barrage aller de la Ligue Europa. Le match retour, c'est jeudi prochain en Serbie pour arracher une qualification pour les 8e de finale. Et dans le championnat de France, le coup d'envoi de la 23e journée en Ligue 1 avec la première du nouvel entraîneur de l'OM, Abbé Bey. Il sera sur le banc à Brest ce soir. Le coup d'envoi, c'est à 20h45. Vous écoutez France Info. Il est 5h35.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
La Charente-Maritime reste en vigilance rouge au cru ce matin, tout comme la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Pour ce qui concerne le fleuve Charente, il n'a pas encore atteint son pic. Ça devrait être le cas demain. 1300 maisons ont été inondées. 300 à 400 personnes ont dû quitter leur logement et les opérations d'évacuation se poursuivent avec l'aide de la brigade nautique de La Rochelle qui patrouille à bord d'un bateau motorisé. Yvan Planteil y a embarqué pour France Info.
Toute la journée, les trois gendarmes font la navette à bord de ce bateau rouge entre les différentes maisons et les appartements inondés. Au moment d'embarquer, voilà que Sven nous rejoint, béret sur le crâne et blouson de motard sur les épaules. Le sexagénaire était jusqu'ici hospitalisé à La Rochelle.
Depuis lundi. Donc en fin de compte, la grosse montée de l'eau, j'ai pas subi. Là maintenant, je suis quand même obligé d'aller récupérer des fringues et tout ça parce que sinon je suis à nu, quoi.
On embarque. Le hall d'entrée est totalement immergé. Alors pour rejoindre l'escalier et le deuxième étage où il habite...
Faites attention, posez-vous bien, attention à la tête.
Sven marche sur des planches qui tiennent en équilibre sur des parpaings. Ce retraité ferme les fenêtres, tire les rideaux et remplit un petit sac à dos.
Et des vêtements, tout simplement. Ouais. Parce que le reste, j'irai acheter la bouffe, tout ça, pour partager... avec ma sœur, quoi, vu que je vais aller habiter chez elle pendant quelques temps.
Pendant que Sven fait ses affaires, les gendarmes tentent une nouvelle fois de convaincre son voisin, Laurent, de partir de chez lui.
Monsieur, c'est encore la gendarmerie.
Mais le refus est catégorique.
Là, je vais rester le temps qu'il faudra.
Et pourquoi vous ne voulez pas évacuer?
Parce que je préfère être ici, je suis bien ici. Ouais.
Et ça vous inquiète pas que l'eau monte comme ça?
Je pense pas qu'elle va monter de 6 mètres, hein, ça m'étonnerait. Hein.
Elle va remonter, mais effectivement, ouais. Monsieur ici n'aura pas d'eau dans son appartement, ça c'est une certitude.
Donc ça risque rien. Je suis pas à l'armiste au point de partir. Non, je suis plus tranquille là. Là, j'ai la télé. S'il n'y a plus d'électricité, j'ai la radio. J'ai ce qu'il faut.
Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi.
Et les forces de l'ordre ne peuvent rien y faire, explique le major Christophe Laferrière.
On n'a pas de moyen de contrainte, sauf s'il y a un risque pour sa vie. Dans ces cas-là, on sera obligé d'en référer à nos autorités. Donc là, il faudra qu'on intervienne aussi, peut-être avec des personnels du SAMU. On a évacué entre 8 et 10 personnes. On a évacué, je crois, une dizaine de chats aussi et 3 ou 4 chiens. Beaucoup de personnes, en fait, ne voulaient pas partir parce qu'elles avaient des animaux. On leur a proposé ensuite d'emmener les animaux avec eux. Là, elles ont réfléchi, elles ont dit bon, d'accord, ok.
En plus de la brigade nautique, un équipage circule à bord d'un 4x4 pour s'assurer que personne ne vienne cambrioler les maisons vides.
Yvan Planteil avec la brigade nautique de La Rochelle pour France Info. La tempête Pedro traverse donc la France, mais les quantités de pluie sont en train de baisser. Une première accalmie qui devrait stabiliser les crues et amorcer une décrue qui sera de toute façon très lente sur plusieurs jours. Quels sont les fleuves et les rivières surveillés de plus près? Vigicru, c'est l'organisme qui surveille le niveau des cours d'eau et qui donne ses prévisions. Et Mathias Daubas fait partie de l'équipe de direction de Vigicru.
C'est des crues qui vont durer, hein. C'est pas parce qu'il y a une accalmie sur le front des précipitations que les crues vont s'éteindre. Hein. Au contraire, on est sur de la propagation. Donc, on a trois gros secteurs qui sont coloriés en rouge. Hein. Donc, on a la Garonne aval, toujours, avec quand même une tendance à l'amélioration pour les jours prochains. avec une amorce de décrue. Par contre, les deux autres secteurs qui sont plus problématiques aujourd'hui, c'est la Charente dans le secteur de Saintes, où on a encore des montées de niveau d'eau, et effectivement la tempête Pedro a rajouté quelques précipitations supplémentaires, donc il faudra attendre que toute l'eau s'évacue. Donc c'est un secteur qui va rester inondé un certain nombre de jours. Hein. Voilà. Et puis on a l'autre secteur qui est très problématique actuellement, qui est le secteur de Angers, avec la Loire et la Maine, qui continue à monter, et une propagation vers la Loire aval. Donc c'est plutôt sur le secteur entre Angers et l'amont de Nantes, où on vient de passer la vigilance rouge, parce qu'on va avoir des montées aussi de niveau d'eau dans les jours qui viennent. Voilà.
C'est la question que tous les habitants de ces secteurs se posent. Ça va monter jusqu'à quand et jusqu'à où ?
Alors, c'est un petit peu le souci qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir des plateaux hein, qui vont s'instaurer à des niveaux qui sont relativement hauts, et c'est certain que ça va durer pendant plusieurs jours, malheureusement, en attendant que toute l'eau s'évacue sur les parties aval et au niveau des estuaires. Donc, voilà, c'est une situation qui va malheureusement durer, même si aujourd'hui, on espère voir un petit peu le soleil qui va revenir. Mais voilà, c'est pas la fin des crues, loin de là. On va malheureusement avoir des montées encore d'eau sur les parties aval de notre territoire.
Mathias Doba de l'équipe de direction de Vigicru, il répondait sur France Info à Jules Dequisse. Il est 6h-20. Autre conséquence des crues et des inondations, la faune et la flore souffrent aussi et sont passées en mode survie. On fait le point avec Gilles Boeuf, biologiste et ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il est en ce moment à Bordeaux et il mène des études sur les poissons dans la rivière Dordogne.
C'est vrai que ces pics de crues affectent le vivant. Alors c'est très clair de comprendre pourquoi en fait. Hein. On a une énorme masse d'eau qui fait suite aux pluies depuis beaucoup, beaucoup de journées comme ça qui sont accumulées. Mmh. Le vivant, en fait, soit il s'accroche au fond pour essayer de se maintenir, sinon il est emmené par le courant. Donc il va aller de l'amont vers l'aval. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas une époque trop dramatique pour nous, parce que d'abord, bon, il fait quand même pas très très chaud. C'est pas une époque de reproduction non plus. Hein. La lose va se reproduire plus tard. Les saumons, les truites ont déjà se sont reproduits à Noël dernier. Les sturgeons aussi un petit peu plus tard. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a ces événements-là en juin, c'est beaucoup plus grave parce que les oiseaux là, ont fait leur nid au bord de l'eau. Et bien sûr, cette crue-là, elle emmène absolument tout. Ce qu'il faut dire surtout là-dessus pour nous et pour le vivant, c'est que le vivant sait gérer ces questions-là depuis la nuit des temps. Le vivant sait stocker de l'eau. Il sait la distribuer, il sait gérer les phases de sécheresse, il sait gérer les phases d'inondation. Et pour ça, il faut garder absolument, c'est toujours mon même credo, les zones humides. Nos grandes zones humides, tous ces marais, se remplissent d'eau comme une éponge quand il pleut beaucoup, comme c'est le cas aujourd'hui, et la restituent après, petit à petit, sur le temps, quand on est en phase sans pluie de sécheresse. Surtout, gardons ces zones humides. Si on change nos rivières, si on rectifie ces rivières, quand il pleut, tout se remplit, et ça déborde. Mmh. Et à l'inverse, quand il fait très sec, on a des gros problèmes de sécheresse. C'est très important de voir comment le vivant réagit lors de ces zones de trop d'eau ou pas assez d'eau.
Gilles Boeuf, quand même, pour les poissons et pour les mammifères, il y en a quand même certains qui se perdent avec l'eau qui déborde de partout, qui parfois couvre des hectares entiers. On retrouve des poissons morts dans les champs et peut-être, j'imagine, des mammifères qui n'ont pas réussi à fuir.
Ah mais bien sûr, moi ça m'est arrivé souvent sur une crue rapide, trouver des truites à 50 mètres du cours d'eau, et si jamais le niveau baisse très vite, bah elles vont mourir, parce que lorsque la décrue se fait, elles sautent comme si elles étaient en fait sorties de l'eau normalement, pour les mammifères aussi. C'est aussi un exemple, dans beaucoup de régions du monde, on se rend compte que ça déplace des populations, parce qu'un radeau qui flotte sur une rivière en crue, tout le monde s'y agrippe. D'ailleurs là, on voit pas le prédateur attaquer sa proie, hein. Tout le monde est stressé, se maintient, et ça peut emmener ce radeau flottant des animaux très loin, y compris en mer, hein. On a eu des cas d'arriver en mer d'animaux qui venaient en fait arracher à la plaine ou à la montagne sur le littoral. Donc c'est vrai que ça perturbe énormément leur capacité à pouvoir éviter d'être emmenés par ce courant, par ces flux qui sont très élevés, bien sûr.
Une maraîchère du sud-ouest nous disait que toute sa récolte était perdue, les céleris, les blettes, les salades, parce que c'était noyé, asphyxié par l'eau. Est-ce que les végétaux peuvent aussi mourir quand ils sont immergés pendant trop longtemps ?
Bien sûr, j'ai également vu ce que cette dame vivait comme moment dramatique, évidemment. Si vous mettez des plantes qui ne sont pas des plantes aquatiques classiques, habituées à être dans l'eau tout le temps, et que vous laissez des heures ou des jours dans l'eau, ben effectivement, les racines ne sont plus capables en fait, de nourrir la plante. Hein. La photosynthèse ne se fait pas de la même façon non plus. Donc, tout ce qui est vivant, comme nous, sont affectés, les plantes, les animaux. Et là, un petit peu, la question, c'est de résister. Vous savez, je crois que La grosse clé pour les humains, s'ils veulent aménager correctement les cours d'eau, c'est de retarder l'eau, hein, qu'on fasse tout pour que, entre le moment où elle tombe et elle arrive à la mer, on puisse effectivement la retarder et l'utiliser au maximum. Mais là, dans des phases de crise aiguë comme ça, effectivement, tout se déverse parce qu'on a beaucoup trop, effectivement, détruit ces zones humides que j'imaginais tout à l'heure.
Le biologiste Gilles Boeuf, ancien président du Muséum d'histoire naturelle, il répondait sur France Info à Jules Dequisse. Il est 5h44, 5 départements donc toujours en vigilance rouge ce matin. La Loire-Atlantique, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. Face à ces crues exceptionnelles, la gestion des eaux de pluie est au cœur des préoccupations. Grégoire Lecalot est allé pour France Info dans le Nord, à Douai, où il y a eu des crues importantes dans les années 90 et des responsables locaux et associatifs ont cherché et trouvé des moyens pour en limiter l'ampleur.
Sur le pas de la porte de sa maison de plein pied en briques rouges, dans la cité charbonnière du Gaudion, à Douai, Yvette Dubus se souvient. Les images qu'elle regarde à la télévision font remonter de pénibles moments vécus il y a une trentaine d'années.
On était carrément inondés ici. Et ça a été catastrophique, quoi. Oh, mon Dieu. Je voudrais pas revivre ça.
Depuis son salon, Yvette n'a pas de vis-à-vis. Enfin, elle n'en a plus. Là où s'étend un espace vierge, gorgé d'eau et planté de bouleaux, il y avait jusque dans les années 2000 une trentaine de maisons, tout comme la sienne. Thierry Euquin, un voisin, fait sa balade quotidienne dans le quartier. Il montre l'endroit du doigt.
Ah oui, il les a rasés à cause de ça, à cause des inondations. Et maintenant, là-bas, c'est plus inondé, quoi, pour ainsi dire. Mais quand même, hein. Ça fait peur.
En surplomb du quartier, un bâtiment, lui aussi en briques, abrite 6 pompes qui tournent sans cesse. C'est la station de relèvement. Jean-Jacques Hérin, président de l'association Adopta, spécialisée dans la gestion des eaux pluviales, nous attend là, devant une discrète plaque métallique au pied d'un mur qui indique 14 mètres.
C'est-à-dire qu'on est à 14 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. C'est-à-dire qu'on est 6 mètres sous le niveau de la rivière. Alors comment ça se fait qu'on n'est pas en train de nager? Eh bien, c'est grâce à une station de relèvement des eaux, laquelle a été créée pour pallier les affaissements miniers qui sont liés à l'exploitation du charbon.
À elle seule, cette station de relèvement draine 900 hectares qui se sont affaissés à cause des mines de charbon. Mais ça ne suffit pas toujours. Alors il fallait trouver d'autres solutions pour limiter les inondations. Jean-Jacques Hérin.
Plutôt que de pomper tout ce qui arrive, on a mis en place tout un système pour retarder l'arrivée de l'eau dans le point le plus bas. Et donc de façon à ne pas être confronté à un débit instantané très fort. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien c'est quand il y avait rénovation des voiries, systématiquement les voiries ont été faites en mettant l'eau dans la voirie, c'est-à-dire qu'on transforme la structure de la voirie pour en faire en même temps un bassin tampon. Une voirie devient aussi un ouvrage de gestion des eaux pluviales, comme un espace vert devient une noue, un jardin de pluie. Comme une toiture aussi, qui va être végétalisée, nous permet aussi de gérer les eaux pluviales.
Depuis ces travaux, les habitants de la cité du Gaudion constatent que les inondations sont moins importantes. Mais pour en arriver là, il a fallu unir les différentes collectivités territoriales. De l'aveu de Jean-Jacques Hérin, c'était le plus difficile.
Grégoire Lecalot à Douai pour France Info. Dans les prochaines minutes, le réveil de l'écho avec Emmanuel Cugny. Et on va d'abord voir pourquoi le remboursement à 100% des fauteuils roulants est victime de son succès. Et d'abord, dans un instant, l'info en une minute.
Le vendredi à 9h, retrouvez les informés du matin sur France Info.
Renaud Dely, bonjour.
Bonjour Adrien.
Autour d'Adrien Beck et Renaud Dely, des experts débattent, analysent et décryptent l'actualité.
Est-ce que sur le plan de la communication, c'est efficace ou contre-productif?
Et est-ce qu'après, le choix des mots est le bon?
Les informés du matin avec Adrien Beck et Renaud Dely, tout à l'heure à 9h sur France Info. France Info, reportage, partout avec vous.
Les bars, on en a besoin pour la vraie relation.
Jean-Marc vient tous les jours prendre le café le matin et discuter le soir.
Internet, ça tue tout ce qui est au niveau relationnel. Que là, regardez, tout le monde se parle et c'est la vraie vie.
Sur le terrain, sur tous les terrains.
Si demain, il est expulsé, c'est la vie, répond Eddy. Il est 6h du matin, le centre communautaire de Pasadena vient d'ouvrir. L'immigré originaire du Guatemala est parmi les premiers.
On n'a pas de papier américain, pas de permis ici. Si quelqu'un a besoin de nous pour tout type de job, il appelle ici.
France Info, pas juste l'info, l'info juste. France Info, 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité à 5h48 avec Laura Dulieu. Le premier titre, Laura, au Royaume-Uni, l'ex-prince Andrew a été relâché par la police britannique.
Le prince déchu a été placé plusieurs heures en garde à vue en lien avec l'affaire Epstein. Le frère du roi Charles III est soupçonné d'avoir transmis des informations potentiellement confidentielles aux pédocriminels américains lorsqu'il était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce entre 2001 et 2011. 7 personnes en tout ont été mises en examen hier dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenque, ce militant identitaire mort après une rixe la semaine dernière à Lyon. 6 personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire. Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député Raphaël Arnaud, a lui été mis en examen et placé en détention provisoire pour complicité de meurtre par instigation. 5 départements sont désormais en vigilance rouge pour les crues dans l'ouest de la France. L'épisode est encore loin d'être terminé, alors que le pays vit sa plus longue période de pluie depuis 1959. On apprend cette nuit la mort de l'acteur américain Eric Dane, acteur phare de la série Grey's Anatomy, dans laquelle il a longtemps incarné le docteur Mark Sloan. Eric Dane était atteint de la maladie de Charcot, il avait 53 ans.
France Info.
Le remboursement à 100% des fauteuils roulants est victime de son succès. Les délais pour obtenir une prescription s'allongent. Certains dossiers sont refusés. Ce remboursement, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. En France, chaque année, 150 000 personnes achètent un fauteuil roulant. La réforme du remboursement est entrée en vigueur le 1er décembre dernier. Et donc, il y a quelques couacs au démarrage. Bonjour Anne Lordagné.
Bonjour.
Le premier problème, c'est d'abord ces délais qui s'allongent.
Oui, il y a beaucoup de demandes puisque certains ont attendu que les fauteuils soient remboursés à 100% pour lancer leur dossier et ils doivent parfois attendre plus d'un an avant de décrocher un rendez-vous chez un médecin pour avoir leur prescription. C'est la première étape indispensable pour obtenir un nouveau fauteuil. Alors ce n'est pas nouveau ces délais d'attente, mais d'après les associations AFM Téléthon ou APF France Handicap, ça s'est aggravé avec cette réforme. D'autant que désormais, il faut passer par une équipe constituée d'un ergothérapeute et d'un médecin rééducateur quand on a besoin d'un fauteuil électrique. Or, ils ne sont pas assez nombreux et aujourd'hui, ils croulent sous les demandes.
Des délais trop longs et les nouvelles procédures n'arrangent rien.
C'est ce que m'a décrit Gilles. Il est paraplégique et il attend son nouveau fauteuil depuis le mois de décembre.
Ça a été un vrai parcours du combattant parce que même la sécurité sociale ne connaissait pas les nouveautés. Il y a ce qu'on appelle des codes LTP qui permettent de référencer un type de fauteuil, etc. Et il a dû falloir recommencer parce que il manquait le nom. Enfin bon, ça a été une vraie galère. Donc vous voyez, j'ai toujours pas le fauteuil et je l'aurai pas avant fin mars.
Le remboursement à 100% a entraîné plein de modifications. Les tarifs ont changé. Il faut désormais compter entre 600 euros pour un fauteuil manuel et plus de 20 000 euros pour un fauteuil électrique. Les procédures aussi ont changé. Du coup, le système se grippe. Près d'un tiers des demandes d'entente préalable sont refusées par la Sécurité sociale et un quart des factures sont rejetées. Il y a aussi un problème sur la location des fauteuils roulants. Et là, ce sont les mutuelles qui ne jouent pas le jeu. D'après les prestataires de services à domicile qui fournissent les fauteuils, la plupart ne paieraient pas leur part. Le bilan de la réforme reste malgré tout positif. En moins de 3 mois, 67 000 demandes de fauteuils roulants remboursés à 100% ont été accordées.
Anne-Laure Dagné, il est 5h51 et c'est l'heure du réveil de l'écho avec Emmanuel Cugny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Toute l'actualité économique en 3 titres, Emmanuel. La RATP, qui gère métro et bus en région parisienne, va recruter plus de 6000 personnes.
Oui, il s'agit de renforcer les effectifs avant l'ouverture du Grand Paris, le futur réseau de transport dans et autour de la capitale. Les premiers métros doivent circuler à partir du mois d'octobre prochain. Alors, électromécanique, maintenance, cybersécurité, informatique et conducteur, bien sûr. De nombreux profils sont proposés à l'embauche. La RATP, qui avait déjà connu une année record pour l'emploi en 2025 avec 7300 embauches, recrutera également 850 personnes dans les villes de France où elle gère un réseau de transport comme Lyon, Toulon ou Angers. 2250 personnes également dans le reste du monde, notamment aux États-Unis, mais aussi en Égypte, en Italie, en Arabie Saoudite, où est présent le groupe public français.
La situation est beaucoup plus compliquée en ce qui concerne le train en Allemagne.
Oui, DB Cargo, la filiale de transport de marchandises de la Deutsche Bahn, en difficulté depuis des années, annonce la suppression d'environ 6000 postes. Décision prise sous la pression de la Commission européenne. Un rapport d'expertise prévoit de réorienter DB Cargo vers les marchés européens en croissance pour regagner en rentabilité. Environ 4000 postes administratifs et de fonctions support sont concernés. 2000 emplois dans l'activité complexe et coûteuse de transport des wagons isolés.
Et les États-Unis enregistrent un déficit commercial record.
Oui, pour le moins. Écoutez bien, 1241 milliards de dollars. Ça fait environ 1100 milliards d'euros. C'est du jamais vu outre-Atlantique. Les États-Unis États-Unis qui importent plus de produits de l'étranger qu'ils n'en exportent. C'est la preuve, une fois de plus, que les taxes douanières de Donald Trump ne fonctionnent pas.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
La France reste la première destination touristique mondiale. Nous avons battu l'année dernière un nouveau record de fréquentation. Mais attention à la concurrence, la destination Espagne revient en force et commence même à nous tailler de sérieuses croupières.
Et on vous retrouve, Emmanuel Cugny, pour ce Brief Éco. C'est dans une demi-heure à 6h23. Tout de suite, c'est la playlist de France Info. Et ce matin, l'aura du lieu un retour très attendu, celui d'une diva.
Here's my white feather hawktail deer hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer.
Je sais que vous l'attendiez, Jean-Christophe. Lana Del Rey vient de sortir un morceau. C'est celui que vous entendez, White Feather Hawk Tail Deer Hunter. Elle l'a dévoilé avec un clip qui semble tourner avec les moyens du bord. Une petite caméra de mauvaise qualité chez elle, avec son mari sous la neige ou en train de cuisiner. Le tout entrecoupé par des extraits de dessins animés. Et cette fois-ci, on l'espère, c'est la bonne. Ce morceau, c'est normalement le premier extrait de son prochain album, le 10e de sa carrière. Successeur de Did You Know That There Is a Tunnel Under Ocean Boulevard, paru en 2023. Alors on ignore beaucoup de choses sur ce prochain album, à commencer par sa date de sortie, mais on en connaît le titre, Stove, un titre qui a changé plusieurs fois et qui montre le chemin très laborieux de ce projet. Ce 10e album avait d'abord été annoncé sous le nom Lasso pour septembre 2024, avec une esthétique très country. C'était la période, rappelez-vous, où Beyoncé sortait son Cowboy Carter. Et finalement, Lana Del Rey ne tiendra pas la promesse de sortie. Elle rebaptise l'album The Right Person Will Stay, avec une nouvelle date, mai 2025. Plusieurs titres sont quand même sortis à ce moment-là, comme Henry Common ou Bluebird en avril 2025. Mais finalement, le calendrier n'est pas tenu non plus et la chanteuse retourne en studio pour revenir donc avec un clip. Ce clip, c'est plutôt bon signe. Ça marque clairement l'entrée de l'artiste dans une nouvelle phase artistique. Et côté musical, vous l'avez entendu, rien de country là-dedans. Lana Del Rey nous plonge dans ce qu'elle sait faire de mieux. Une ambiance gothique, psychédélique. Sa voix qui monte dans des aigus hypnotisants qui nous emportent, clairement. Je pense que vous aussi, on a hâte.
J'avais pas hâte de l'entendre en country. En fait, je suis content qu'elle en reste à ses grandes inspirations.
Je pense que vous n'êtes pas le seul.
D'il y a quelques années. La playlist de France Info, signée ce matin Laura Dulieu avec Lana Del Rey. Dans un instant, la météo et le prochain journal à 6h.
Dans ma voiture, j'ai l'ABS, le GPS et le DAB+. La radio en DAB+, c'est une qualité sonore exceptionnelle. Plus de radio et plus d'infos sur ce que j'écoute. Et sur mon trajet, plus besoin de changer de fréquence.
DAB+, trois lettres pour une révolution de la radio.
Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab-et-plus.fr.
Le 8-30 France Info, tous les jours sur France Info.
Chaque matin, la grande interview de France Info.
Un entretien sans concession.
Une demi-heure pour analyser et expliquer.
Le 8-30 France Info, c'est tous les jours sur France Info.
À retrouver à la radio et à la télé sur le canal 16 de la TNT.
Et avant le journal, la météo avec Christine Peña. Christine, c'est toujours pas facile pour les sinistrés qui ont les pieds dans l'eau. Oui. Mais quand même, une bonne nouvelle, la tempête, elle commence à s'éloigner.
Oui, elle s'éloigne effectivement. Les pluies seront de plus en plus espacées. La crue est encore importante. Sur tout l'ouest du pays, dans le secteur de la Garonne-Aval, de la Charente-Aval, dans le secteur d'Angers ou de la Loire-Aval. Attention également au risque d'avalanche sur les Alpes qui se maintient. On a de la neige d'ailleurs sur les massifs, que ce soit sur le massif central centrale ou encore surtout sur les massifs de l'Est, Jura, Vosges, également les Alpes. Nous avons encore de la neige de prévu jusqu'à ce soir. C'est Pedro qui s'est éloigné en direction de l'Italie, mais il nous renvoie encore quelques averses. Alors surtout ce matin sur l'axe sud-ouest, nord-est et est. Les vigilances vont évoluer en mieux, forcément, avec cette décrue qui va commencer à s'amorcer, mais c'est pas encore aujourd'hui. Nous avons encore quelques averses qui se maintiennent. Nous avons le soleil qui va briller en Méditerranée, avec toujours ce vent qui reste fort, mais qui a baissé d'un cran. On n'a plus de vigilance là non plus pour le vent, mais on a des rafales encore attendues à 100 km par heure sur littoral du Languedoc-Roussillon ou encore vers le Var en basse vallée du Rhône. C'est plutôt du 80. Les éclaircies sont de plus en plus belles sur le littoral aquitain, surtout cet après-midi. Il va falloir patienter sur le nord, sur Paris. Ça reste chargé avec encore des petites pluies vers la Manche.
Christine Peña, il est presque 6h et pour 3 nouvelles heures d'infos, c'est Adrien Beck qui nous accompagne. Bonjour Adrien.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi matin. Christine Peña, bien sûr, à mes côtés. Bonjour ma chère Christine.
Bonjour mon cher.
Je salue également Solène Cresson. Ma chère Solène, puisque tout le monde est cher.
Bonjour mon cher Adrien.
Votre journal dans quelques secondes.
Bonjour ma chère Solène.
Ça va aller ?
Fallait pas nous lancer.
Je vous dérange pas ?
Non, on s'aime bien.
Bon, je vous donne quand même un petit mot du programme de ce vendredi. On vient d'en parler avec Christine, on va en parler dans le journal. On garde toujours un œil, évidemment, sur les crues. Nous sommes en Charente-Maritime, en Loire-Atlantique, nous sommes dans Lot-et-Garonne. Le point, évidemment, sur la situation. On sera aussi dans le Nord, où entre destruction d'habitation